Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Commentaire sur le mystère de la fleur d'or réunit le regard de Carl Gustav Jung sur un texte majeur de l'alchimie intérieure taoïste. Rendu accessible en Europe par Richard Wilhelm. Publié initialement à la fin des années 1920, le commentaire ne prétend pas fournir une méthode taoïste orthodoxe ni remplacer l'étude historique de la Chine. Il cherche plutôt à mettre en rapport des images spirituelles chinoises avec les problèmes psychologiques de l'individu occidental moderne. Jung y examine la méditation, le retour vers l'intérieur, les visions symboliques et la formation de mandalas à partir des notions centrales de sa psychologie analytique. L'ouvrage occupe donc une position hybride, il est à la fois essai de psychologie des profondeurs. Réflexion comparée sur les traditions religieuses et documents importants pour comprendre l'évolution de la pensée jungienne. Les matériaux iconographiques et les textes associés à Wilhelm prolongent cette enquête. Sa finalité principale est d'éclairer comment une pratique symbolique peut soutenir une transformation de la conscience, sans réduire le langage religieux à une simple théorie abstraite. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un dialogue prudent entre alchimie taoïste et psychologie analytique. Le point de départ du livre est le traité taoïste connu sous le nom de Mystère de la fleur d'or. Jung ne le lit pas comme une curiosité exotique, mais comme l'expression d'une expérience intérieure organisée autour d'images de lumière, de circulation et de centre. Son geste consiste à rechercher ce que ces images peuvent révéler à un lecteur européen confronté à la division entre vie rationnelle, affect et inconscient. Cette transposition est néanmoins délicate. Les termes chinois s'inscrivent dans une tradition religieuse, corporelle et cosmologique dont la psychologie occidentale ne fournit pas l'équivalent exact. Jung insiste ainsi sur la nécessité de ne pas imiter extérieurement les pratiques orientales ni de les déraciner de leur contexte. L'intérêt de la comparaison réside moins dans l'identification forcée de doctrines semblables que dans la mise en évidence d'un problème commun, comment l'être humain peut-il établir un rapport plus conscient avec sa vie intérieure. Le commentaire rend visible la méthode comparative de Jung. Il utilise les symboles taoïstes pour interroger l'expérience psychique occidentale, tout en considérant que les réponses concrètes et les cadres culturels ne sont pas interchangeables. Cette tension entre proximité psychologique et différence historique constitue une des difficultés, mais aussi une des richesses durables du volume. Deuxièmement, la fleur d'or comme image d'un centre psychique en formation dans la lecture jungienne. La fleur d'or ne doit pas être comprise comme un objet matériel ou comme un emblème à décoder une fois pour toutes. Elle condense une orientation vers un centre intérieur susceptible de réorganiser une personnalité dispersée. Jung rapproche cette dynamique de sa conception du soi, principe de totalité psychique qui dépasse le moi conscient sans l'annuler. Le moi demeure nécessaire pour agir dans le monde, mais il n'épuise pas l'ensemble de la psyché. Lorsque les contenus inconscients sont systématiquement ignorés, ils peuvent se manifester sous la forme de conflits, de projections ou d'une impression de perte de sens. Le symbole central offre alors une représentation capable de tenir ensemble des éléments opposés sans les confondre. Cette fonction explique l'importance accordée aux figures circulaires, aux images lumineuses et aux mandalas. Elles ne valent pas comme preuve d'une vérité universelle toute faite, mais comme configuration possible d'une expérience de centrage. Jung s'intéresse particulièrement à leur apparition spontanée dans les rêves, les dessins ou les visions. Le lecteur doit donc éviter une lecture décorative ou ésotérique du symbole. Sa portée est psychologique, il donne une forme perceptible à un processus d'intégration qui reste autrement difficile à penser et à décrire. Troisièmement, la méditation comprise comme retournement de l'attention vers la psyché, le traité commenté décrit une discipline de méditation. Et Jung s'attache à ce que signifie psychologiquement le fait de détourner l'attention des objets extérieurs pour la ramener vers l'intérieur. Dans une culture moderne fortement orientée vers l'action, la maîtrise technique et l'évaluation sociale, ce déplacement peut révéler des contenus habituellement négligés rêves. Images, émotions contradictoires et fantasmes. Pour Jung, leur donner une place ne signifie ni s'abandonner passivement à toute impulsion, ni cultiver l'isolement. Il s'agit de développer une observation capable de supporter ce qui échappe d'abord au contrôle du moi. La méditation est ainsi interprétée comme une discipline de relation à l'inconscient. Elle peut favoriser une prise de distance avec les réactions automatiques et permettre à des symboles organisateurs d'émerger. Toutefois, le livre ne fournit pas un protocole clinique ni un manuel d'exercice applicable uniformément. Jung rappelle implicitement que les pratiques spirituelles ont des effets différents selon les personnes, leur culture et leur état psychique. Son commentaire est plus pertinent comme cadre de réflexion sur l'intériorité que comme prescription de pratique. Il invite surtout à distinguer une attention intérieure structurante d'une fuite hors du réel, distinction essentielle dans toute appropriation contemporaine de la méditation. Quatrièmement, la fonction transcendante est la médiation entre conscient et inconscient. L'un des apports les plus nets de l'ouvrage à la pensée jungienne concerne l'articulation entre conscience et inconscient. Jung refuse de réduire l'inconscient à un simple dépôt de désirs refoulés ou de souvenirs oubliés. Il y voit également une source d'images et de tendances compensatrices, susceptibles de corriger les positions trop étroites du moi. La transformation ne provient pourtant pas de la victoire d'un pôle sur l'autre. Elle exige la création d'une relation vivante entre ce que la conscience affirme et ce que l'expérience intérieure lui oppose. Jung nomme fonction transcendante le processus par lequel une nouvelle attitude peut se former à partir de cette tension. Le mot ne désigne pas une évasion mystique hors des contradictions ordinaires. Il renvoie à un travail de symbolisation, reconnaître un conflit, laisser apparaître les images qui lui sont liées, puis chercher une réponse qui ne soit ni déni ni soumission. Les rêves, l'imagination, l'écriture ou le dessin peuvent contribuer à cette élaboration, à condition de ne pas être traités comme des oracles infaillibles. Le mystère de la fleur de Or fournit à Jung un langage traditionnel pour penser cette médiation. Son commentaire traduit ce langage en termes psychologiques et fait de l'unification intérieure une tâche graduelle, plutôt qu'un état spectaculaire ou définitivement acquis. En dernier lieu, mandalas, images religieuses et limites d'une lecture exclusivement rationnelle. Les mandalas occupent une place importante dans l'appareil visuel associé à cette édition et dans l'interprétation de Jung. Par leur organisation autour d'un centre, ils donnent une forme sensible à la recherche d'ordre au sein de la diversité psychique. Jung rapproche des mandalas européens de motifs comparables rencontrés dans les traditions asiatiques, non pour effacer leurs différences, mais pour suggérer que certaines formes symboliques peuvent surgir dans des contextes éloignés. Cette comparaison soutient son hypothèse d'une dimension collective de l'imaginaire. Elle montre aussi pourquoi Jung accorde aux productions visuelles une valeur d'observation. Un dessin peut rendre perceptible une organisation affective ou une tension que le langage conceptuel n'exprime pas encore. Le livre ne demande toutefois pas au lecteur de croire littéralement au contenu métaphysique de chaque image. Son argument porte sur leur efficacité psychique et sur leur capacité à médiatiser une expérience intérieure. Cette position le distingue à la fois d'un rationalisme qui rejetterait les symboles comme de simples illusions et d'un occultisme qui les transformerait en certitudes révélées. Les textes liés à Richard Wilhelm ainsi que la préface au I Ching présentes dans le volume élargissent enfin la réflexion. Il situe l'intérêt de Jung pour la Chine dans une interrogation plus vaste sur l'expérience religieuse, la divination et les frontières du savoir psychologique. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux lecteurs de Jung qui souhaitent comprendre la place des traditions orientales dans la formation de la psychologie analytique. Il intéressera aussi les étudiants en histoire des religions, en études comparées des symboles ou en philosophie de la spiritualité, à condition d'accepter un texte dense et situé dans le vocabulaire de son époque. Les personnes attirées par la méditation peuvent y trouver une réflexion substantielle sur l'attention intérieure et le rôle des images, mais non un guide pratique de taoïsme. Son bénéfice intellectuel principal est de faire voir comment Jung tente de penser l'expérience spirituelle sans l'évacuer du champ psychologique, tout en refusant de la réduire à une croyance rationnellement démontrable. Le lecteur y rencontre les notions de soi, de symbole, de mandala et de fonction transcendante dans une configuration particulièrement concrète, par rapport aux introductions générales à Jung. Cet ouvrage se distingue par son ancrage dans un texte taoïste précis et par la qualité de sa confrontation entre deux univers culturels. Par rapport aux commentaires religieux du traité, il se singularise inversement par son effort de traduction psychologique. Cette double appartenance fait sa valeur, mais impose aussi une lecture critique. Les rapprochements de Jung éclairent puissamment sa propre théorie, sans épuiser le sens historique du taoïsme. Lu dans cette perspective, le volume demeure un jalon essentiel pour comprendre son ambition de relier symbole, expérience intérieure et individuation. Si vous souhaitez soutenir Carl Gustav Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.